Aujourd'hui, pour le temps d'une bière, nous sommes inclusifs. Nous parlons non pas de bière, mais de vin. Sauf que, tenez-vous-le pour dit, on parle quand même de gens et de leur histoire. Nous sommes exceptionnellement en France. Nous sommes près de la ville de Bordeaux, mais ça sera important plus tard pour le balado. On n'est pas à Bordeaux, on est dans les alentours. Je suis en ce moment avec François Cholet, qui est le propriétaire ici du vignoble Château Montgaillard. Comment ça va, François?
Ça va très bien, Pierre. Je te remercie d'être venu. Et sois le bienvenu. Donc, on est situé dans le sud de Bordeaux, à 50 km en dessous, près d'une ville qui s'appelle Langon, un petit village qui s'appelle Saint-Mexant, où il y a 1600 âmes, mais une culture de la vigne importante depuis quelques siècles maintenant. Voilà. Et on est sur l'appellation Cadillac-Côte de Bordeaux.
Parle-moi un peu de cette appellation-là.
Alors, bon, pour faire simple, à Bordeaux, nous avons 60 appellations. Donc, les principales sont les plus connues, souvent soit dues à leur ancienneté ou à leur surface. Donc, pour citer les plus importantes, ça va être le Médoc, on va avoir Saint-Émilion, on a tout le côté des Graves, Pissac-Léognan. Mais on a aussi des appellations qui sont très intéressantes, moins connues, mais qui offrent de très bons rapports qualité-prix. Et dont les qualités sont en augmentation assez régulière actuellement, c'est les appellations des côtes. Donc les côtes sont composées de 5 appellations. Je peux les citer si tu veux. Donc il y a les côtes de Bourg, les côtes de Blaye, les côtes de Castillon. Un tout petit qui est au-dessus des côtes de Castillon dans le Libournais qui s'appelle les côtes de Franc. Et puis pour finir, mon appellation qui sont les Cadillac côtes de Bordeaux. Qui est une appellation qui est assez connue, non pas par le vin, mais par les voitures, puisque il y a une firme américaine d'automobiles, donc aux States on dit Cadillac, mais bon, c'est bien issu de la ville de Cadillac, puisqu'il y avait l'homme qui a donné le nom à la firme, qui avait fait un bref passage à Cadillac, avant de devoir aller sur les États-Unis.
Voilà. Ça a même donné une expression fameuse au Québec et même peut-être en France, quand on dit que ceci est la Cadillac de quelque chose, la Cadillac étant une norme d'excellence.
Voilà, ben j'espère qu'il y aura le même rapport avec le vin, puisqu'on a quand même des vins qui aujourd'hui, au niveau qualitatif, ont fait de très gros progrès et peuvent parfois, sur certaines cuvées, bien travailler, rivaliser avec des appellations supérieures et heureusement à des prix bien intéressants.
Donc, l'idée, c'est d'être compétitif au niveau de la qualité et puis aussi au niveau de tout, dans le fond, parce que c'est très compétitif. Ouais. Là, vous avez 1 milliard de vignobles en France.
Oui, et d'autant plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de régions qui étaient anciennement productrices, puisqu'il y en avait un peu partout, finalement, qui se remettent à faire du vin. Donc, mais même des endroits un peu improbables où on n'aurait pas l'idée d'aller chercher du vin.
Tu veux dire des endroits qui ont arrêté la production ou en tout cas qui ont fortement diminué?
Oui, enfin, ça doit être des productions qui étaient plus issues pour des consommations personnelles. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait du vin dans le centre de la France. On en fait aussi en Bretagne. Et c'est des vignobles qui sont en train de s'accroître. Ce n'est pas des grosses productions, mais il y en a une multitude. Mmh. Et finalement, on s'aperçoit que chaque micro-vignoble prend une petite part de marché et au global, ça fait une concurrence qui est là, quoi, qui est présente.
Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'un paquet de questions s'impose à nous. On parle de plusieurs régions, certaines qui rattrapent un peu le temps perdu et ça me ramène inévitablement au temps qui passe. Quand est-ce qu'on commence à faire du vin dans ton coin? D'où remonte cette fameuse histoire d'amour entre vous et la vigne?
Alors, il va falloir qu'on voyage un peu dans le temps. Il va falloir remonter assez loin. On va remonter au temps des Romains.
Le temps des Romains.
Oui, parce que c'est Jules César quand il a fini de conquérir la Gaule. Donc, ça devait être, je ne suis pas historien, mais je crois que c'est autour des 60 ou 80 après Jésus-Christ. Ou avant, enfin, dans ces eaux-là. On n'est plus à quelques dizaines d'années près.
Rendu là, on peut se permettre une décennie de plus ou de moins.
Tout à fait. Et donc, c'est à cette période où il y avait des... Donc, quand les Romains ont commencé à vivre sur Bordeaux, bien sûr, ils voulaient avoir les mêmes avantages qu'en étant à Rome. Donc, ils voulaient boire du vin. Donc, dans un premier temps, ils ont importé du vin d'Italie. Et puis, bon, ça revenait très, très cher. Le vin était une denrée rare. Et donc le voyage arrangeait pas les choses. Donc ensuite ils ont importé du Languedoc parce qu'ils ont développé une culture de la vigne assez importante dans le Languedoc. Et puis finalement ils se sont mis à en faire aux portes de Bordeaux. donc notamment sur les coteaux de Bouliac, juste en face de Bordeaux, sur l'autre rive. Mmh. Et après, tout autour de Bordeaux, à Pessac. Enfin, maintenant, la plupart de tous ces endroits sont mangés par la banisation. Mais la culture de la vigne a vraiment commencé là. Et après, pour s'étendre dans tout le territoire de la Gironde. Voilà. Et même à déborder sur d'autres départements, puisqu'on a encore tout le Bergeracois, Duras, le Buzet, où la culture de la vigne, avec les mêmes cépages qu'ici, s'est développée. Et ensuite, à la Révolution, quand il y a eu le découpage des départements, donc, puisque c'est les Girondins qui étaient au pouvoir à ce moment-là, donc on s'est fait un gros département pour nous, on a enlevé toutes les régions qui n'étaient pas directement dans la Gironde. Et ces régions-là ne pouvaient plus faire de Bordeaux. Les vins ne pouvaient plus descendre le fleuve pour faire des Bordeaux. Donc, c'est devenu d'autres appellations donc, que j'ai citées précédemment, qui sont Bergerac, Duras ou Buzet-sur-Baïse. Voilà.
Est-ce que le même phénomène s'applique aux vins d'ici, de la région de Cadillac?
Non, la région de Cadillac a une petite mutation, puisque autrefois, jusqu'en 2009, ça s'appelait les premières côtes de Bordeaux. C'est des vins qui étaient connus pour les premières côtes de Bordeaux, donc ils existaient en blanc liquoreux, ainsi qu'en rouge. Et à partir de 2009, on a décidé de faire un groupement au niveau du groupe Côte avec une appellation générique qui s'appelle les Côtes de Bordeaux. Et pour mieux valoriser nos petites productions locales, on a donné un nom de ville à chacune des appellations. Donc nous, on s'appelle les Cadillac Côtes de Bordeaux, comme nos collègues s'appellent les Blaye Côtes de Bordeaux ou les Castillon Côtes de Bordeaux. Voilà. Donc ça, et on a une appellation générique qui était censée servir pour le négoce sous le nom Côte de Bordeaux, et après une appellation plus pour les producteurs en mettant en avant des produits de qualité avec une dénomination communale. Mmh.
Voilà. Et tout ça me fait penser, dans le fond, à la particularité de votre appellation contrôlée à vous ici. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'on a comme terroir, par exemple?
Ben voilà, ça, c'est une bonne question.
Enfin, donc, une bonne question.
on y vient. Donc, l'appellation Cadillac a la chance, finalement, d'être pas très large. Ça suit la Garonne sur toute sa longueur. Donc, ça fait plus de 50 km de long. Mais par contre, elle est très longue. Et elle n'est pas très large. Et elle fait une bande qui fait à peu près 5 à 10 km de large, perpendiculaire à la Garonne. Et donc, sur le bas de cette frange, on a des terrains qui vont être très, très graveleux. Donc, on a de magnifiques graves avec des terrains chauds. Et donc, bien sûr, des vignes qui sont assez précoces. Et ensuite, sur les coteaux, puisque c'est une appellation de côte, donc bien sûr, on a des coteaux.
Mm-hmm. Oh, attention, là, on n'a pas une appellation, mais un appel.
On va le neutraliser.
Voilà, on a neutralisé l'appel, ce qui nous permet de retourner à notre appellation.
Voilà. Donc, sur les coteaux, on va avoir des vins qui sont... Des vins qui sont sur des terrains qui vont être un petit peu plus froids, des terrains argileux, mais par contre qui ont des expositions qui sont magnifiques.
Des expositions.
Voilà, des expositions par rapport au soleil. On va avoir des terrasses qui vont être sud-sud-ouest. Oh, oui. Et donc, c'est pareil, pour avoir des maturités, c'est très bien. Et le fait d'avoir des terrains argileux, ça permet de garder de la fraîcheur, notamment en été, donc de bien résister à la chaleur. Voilà, donc on va avoir l'effet précocité tout en ayant quand même des terrains frais. Voilà. Donc pour la vigne, c'est gage de bonne qualité et surtout de bonne maturité.
Et j'allais te demander si ça aide à, disons, préserver la vigne en cas de disette, parce qu'au moment où est-ce qu'on enregistre ce petit segment, c'est une des pires sécheresses que connue la France en peut-être 40 ou 50 ans.
Alors là, la plus grosse sécheresse a été en 1976. Mm-hmm. Donc à cette époque-là, j'avais que 3 ans. Donc, Je ne peux pas te faire un retour.
Tu n'as pas fait d'arpentage particulier, tu n'es pas allé prendre des calculs à 3 ans.
Non, j'allais à l'école, mais...
Voilà.
Et ensuite, on en a une autre en 2003, donc là, je démarrais aussi sur l'exploitation. Donc, c'est vrai que la récolte était assez petite. Ce n'est pas normalement des vins de très longue garde, on avait quand même une qualité qui était bonne, mais la vigne souffre trop. Et là, cette année, on est un peu sur un profil un peu comme 2003, où vraiment... la vigne souffre, on a des baies qui sont assez petites pour l'instant, mais on n'est pas encore au 15 août, donc on espère normalement semaine prochaine un bon orage et qui devrait tout remettre dans l'ordre. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est préoccupant et on a vraiment besoin de pluie pour pouvoir continuer la maturité des raisins.
Ben écoute, moi, je te propose un échange. J'étais dans les Hautes-Pyrénées là, jusqu'à ce matin même. Et là-bas, j'y ai passé 5 jours. À chaque journée, il y avait un gros orage. Donc, je te propose qu'on échange la sécheresse, dans le fond, du Bordelais et de la Nouvelle-Aquitaine pour le surplus d'orage qu'on trouve dans la région du pays de Toy. On fait un échange.
Donc, je suis preneur.
Tu es preneur,
mais
d'accord.
Il faut savoir que sur toute la chaîne pyrénéenne, il y a quand même un microclimat. Et justement, cette chaîne de montagne arrête les nuages et il y a quand même des précipitations régulières.
Ouais.
Cela dit, on a la Garonne, notre fleuve local, qui prend sa source dans les Pyrénées. Donc l'eau que tu as reçue là-bas, va nous arriver par le fleuve dans quelques jours.
Avec moult sédiments brunâtres.
Voilà, entre autres.
Voilà. Il faut dire quand même que c'est une énorme rivière. Là. C'est grand, puis ça charrie beaucoup de choses. Ça part de l'Espagne. Et puis, ça a un effet modérateur aussi, j'imagine, sur le climat de la région.
Alors, c'est intéressant que tu en parles parce que... alors, personnellement, j'ai remarqué au niveau de mon exploitation, notamment en hiver, quand il y a des gelées, ou même au printemps, il y a un petit microclimat. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir des gelées qui seront moins fortes par rapport à 10 km un peu plus loin, des gelées on va gagner à peu près 1 ou 2 degrés. Donc on aura un peu moins froid et ça fera un effet un peu modérateur.
Mm-hmm.
Voilà. Donc c'est un rôle intéressant. Et après, la Garonne, via un de ses affluents qui est le Siron, est un facteur très important, notamment pour mes confrères qui sont dans le Sauternais, pour l'installation de la pourriture noble. Mais ça, peut-être que tu feras un autre balado là-dessus.
Je peux t'assurer que mon sens aigu de l'éclectisme me fait beaucoup m'intéresser au concept d'un champignon qui s'attaque directement à la superficie d'un raisin pour en faire un des vins les plus prisés au monde.
Je crois que tu connais déjà un petit peu l'histoire. Donc,
Mais je trouve ça fascinant comment tout le monde explique un peu de façon différente. Il y en a qui disent qu'en réalité, ça vient du microclimat, pour qui, en fait, le brouillard favorise l'installation du champignon et pour d'autres personnes qui mettent plutôt l'accent, disons, sur le champignon. Mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que le raisin, la grappe, est complètement pourrite, mais il est juste ratatiné.
Voilà, donc, après, c'est pas ma partie, parce que moi, je fais pas de ce type de vin, mais enfin, je suis quand même de la région, je connais bien, mm-hmm. Je suis amateur aussi de ce genre de vin. Il tient tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le botrytis, bien sûr, le champignon,
mm-hmm.
mais... Son développement, il sera conditionné seulement à cette humidité du matin, donc amenée par les brumes du mois d'octobre, du mois de novembre. Alors, ces brumes sont favorisées, bien sûr, par l'humidité. Donc, le fait qu'il y ait ce ciron qui serpente dans le vignoble, ça amène de l'humidité. Et ensuite, il faut quand même qu'il y ait aussi de la chaleur. Donc, les chaleurs de l'après-midi et les brumes du matin, c'est deux facteurs qui vont favoriser son implantation, son développement. Et puis qui vont conditionner la concentration des grappes.
Voilà. Et le fait que ce champignon-là ne soit pas prédominant dans ton coin à toi, est-ce que ça suggère qu'il y a un petit peu moins d'humidité?
Contrairement à ce que tu penses, on est en Cadillac, Côte de Bordeaux, donc une appellation des rouges. Mm-hmm. Mais Cadillac est très connu, peut-être même plus connu pour l'appellation des liquoreux.
Okay.
Voilà, donc sur cette rive, même si j'en produis pas, il s'est produit autrefois beaucoup de liquoreux.
Mm-hmm.
Alors maintenant, c'est un petit peu moins tendance, un peu moins demandé. Donc il y a beaucoup de viticulteurs qui ont arrêté de faire ce type de produit. Mais on a de très beaux terroirs sur nos coteaux pour en faire. Voilà. Alors ce n'est pas les mêmes terroirs que le Sauternais, mais on a des résultats qui sont assez intéressants aussi.
Et parle-moi un peu de tes cépages. De la grappe que vous avez ici?
Alors, sur mon exploitation, c'est issu les choix qu'ont fait mon grand-père et mon père. En blanc, j'ai qu'un seul cépage, c'est le Sauvignon. Donc ce Sauvignon, je vais le travailler de deux façons différentes. Une première, où je vais faire un élevage en cuve inox, une fermentation, puis ensuite un élevage en cuve inox. Donc pour faire un vin qui soit assez aromatique, souple, avec un petit peu de vivacité, un peu de fraîcheur sur la fin de bouche, qu'on boira surtout avec des huîtres, des moules, des poissons grillés.
Mmh.
Et ensuite, avec ce même moût en fermentation, j'ai choisi de faire une autre cuvée qui porte le nom de ma fille, qui s'appelle la cuvée Alice, où ce blanc, je vais le vinifier en barrique. Voilà. Donc pendant la fermentation, je vais entonner mes barriques, les remplir, je vais entonner mes barriques, le vin va finir de fermenter dans les barriques. Ensuite, je vais les ouiller, c'est-à-dire que je vais les remplir au maximum. Et pendant 6 mois, je vais faire un élevage sur lit avec des bâtonnages. Donc, les bâtonnages, ça consiste à brasser les lits. Les lits, ce sont les levures qui ont servi à la fermentation. Je vais les brasser avec une petite canne en inox et pour justement aller chercher des composés aromatiques qui vont amener de la rondeur, qui vont amener du volume, de la longueur, de la complexité. Et la barrique donnera quelques petites notes boisées. Mm-hmm. Voilà, mais je crois que tu as goûté ce vin midi, si je m'abuse.
Et je peux te certifier que je ne l'ai pas regretté. Et tu me parles un peu de la famille. On parle évidemment du château Montgaillard. Tu me disais en réalité que ton grand-père avait, si on veut, ramené ensemble deux vignobles. Et puis, si je comprends bien, c'est une affaire de famille, tout ça.
Oui, effectivement, c'est une affaire de famille. Moi, je suis la 4e génération. Donc, ça a démarré avec mon arrière-grand-père. Mm-hmm. Qui avait acheté les terrains où nous sommes ici. Il y avait juste la partie ancienne du chai. Il a fait construire la maison donc, qui représente le château, hein, qu'on peut voir sur l'étiquette ou même sur les barriques. Et ensuite, donc, c'est un travailleur. Hein. Mm-hmm. Il a développé la structure, donc c'était début du XXe siècle. Hein.
Il fallait faire tout par soi-même, voilà. Si je comprends bien.
Oui, et puis il y avait des années qui étaient beaucoup plus difficiles. Et c'était une époque où on faisait plutôt de la polyculture. C'est-à-dire, on avait un pré pour nourrir le cheval et la vache, mm-hmm. la vache pour faire le lait, des volailles, des lapins. C'était une culture qui était quand même assez vivrière. Et la vigne, bon, bah, amenait quelques ventes en plus, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des arbres fruitiers, des poiriers, des pêchers, qui amenaient des rentrées d'argent un peu plus régulières, et puis qui sécurisaient surtout en cas de mauvaise récolte.
Oui, oui. Voilà. Dans le temps, je pense que je ne m'avancerai pas trop en disant que un peu tout le monde faisait un peu plus de tout parce qu'il fallait être un petit peu plus autonome, je suppose. Donc, on ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier, si on veut.
Oui, et puis quand on regarde aussi la structure du village, on voit que les anciennes maisons du village, elles avaient tout un chai.
Ils avaient tout un chai. Parle-moi un peu de ce que c'est qu'un chai. C'est l'endroit où est-ce qu'on prépare le vin, si je comprends bien.
Voilà, donc dans un chai, qu'est-ce qu'on trouvait autrefois ? C'est relativement simple. Il y avait un gros pressoir. Mm-hmm. Souvent, c'est une grosse vis, une énorme vis sans fin, sur lequel on montait des cages autour. Et ensuite, dessus, on mettait des cales, on mettait un chapeau dessus. Et on tournait cette vis pour écraser la vendange à l'intérieur. On récupérait le jus. Et après, il était mis dans... Alors, il n'y avait pas que des barriques, puisqu'une barrique, aujourd'hui, c'est 225 litres ou 300 litres. Mm-hmm. Mais il y avait ce qu'on appelait des demi-muits ou des muits, des cuves en bois qui étaient beaucoup plus grosses, qui faisaient 900, voire plus. Et ils mettaient le vin à fermenter là-dedans. Voilà. Et, mais bon, c'était assez sommaire, assez rudimentaire. Mais ça suffisait pour chaque villageois pour pouvoir faire sa consommation personnelle plus quelques barriques en plus pour revendre, pour se faire un petit peu d'argent. Sauf certains villageois qui étaient assez consommateurs de vin, qui buvaient toute la production, voire même après en achetaient un peu parce qu'ils n'en avaient pas assez. Voilà. Mais bon, c'était des cas exceptionnels et puis dans tous les villages, il faut quelques exceptions.
Oui. Ouais. Et il semble qu'à un certain moment donné, on passe de la production plutôt locale à l'échelle d'une famille ou d'un village, à l'échelle internationale. Est-ce que c'est Bordeaux, la fameuse ville de Bordeaux, qui lance l'internationalisation du vin français?
Alors ça, c'est une bonne question. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même eu un regroupement des exploitations, c'est-à-dire que bon, toutes ces petites familles qui avaient quelques arpents de vignes, dans le village, certains se sont vraiment spécialisés là-dedans. D'autres ont trouvé des vocations dans d'autres métiers. Donc, il y a eu un petit peu moins de producteurs. Et puis, petit à petit, une professionnalisation. Et ce qui a fait avancer vraiment les choses, ça va être la mécanisation de l'agriculture dans les années 70-80, mais surtout mmh. fin 70. Voilà. Où les tracteurs sont arrivés, plus performants, des machines un peu plus performantes. Donc, ça a permis de faire un petit peu plus de surface dans des conditions qui étaient plus faciles aussi.
Ouais. Oui.
Et après l'internationalisation, bon, mais ça a toujours été Bordeaux de par son histoire. Hein. On a été anglais pendant 350 ans. Donc le commerce avec l'Angleterre a toujours été, c'est les Anglais qui avaient vraiment développé le commerce. Mmh. Ensuite, on a eu des familles allemandes. Bon, il y a eu l'occupation allemande, mais il y a eu aussi pas mal de familles allemandes qui font partie du négoce, des Hollandais. Donc c'est vraiment une ville qui est cosmopolite. Et on le voit aussi quand on regarde le nom de beaucoup de vieilles familles de négociants de Bordeaux. On voit bien qu'ils ne sont pas issus de Bordeaux directement, enfin, par adoption bien sûr, mais c'est très riche. Ouais. Et dernièrement, bon, mais le grand Eldorado de Bordeaux a été dans la première décennie des années 2000 avec la conquête de la Chine, puisque Bordeaux est arrivé très vite à occuper, je crois, c'était 50% des importations de vin en Chine, ce qui est énorme. Hein.
C'est énorme, voilà. Considérant que c'est la première population mondiale et qu'ils ont soif.
Tout à fait. Et puis, on était dans une période où, en plus, il y avait quand même une surproduction à Bordeaux. Donc, on avait des volumes. On ne savait pas trop quoi en faire. Et ça intéressait les Chinois. Et qualitativement, c'était bon. Ça leur a plu. On avait des vins souples qui étaient sur le fruit, faciles à boire. Et de suite, ça leur a plu. Et ça nous a bien servi. Et commercialement, on avait été très bons. Mmh. On allait présenter nos produits. Beaucoup de viticulteurs ont fait le voyage. Certains ont même ramené des Chinoises.
Certains sont tombés en amour. Il n'y a rien de plus français que d'aller à l'international et de tomber en amour. Ou peut-être après, même rien de plus humain.
Non, mais c'est la réputation des Français.
Oui, d'être charmeur, d'être, voilà, d'être... J'ai l'impression de tomber dans des clichés sur clichés sur clichés ici.
Non, pas du tout. Non, mais après, c'est réel. Hein. Il y a quelques viticulteurs qui ont épousé des Chinoises. Mais après, on ne peut pas l'empêcher du moment qu'il y a qu'on se déplace pour aller quelque part. Mm-hmm. Il peut y avoir ce genre de choses qui arrivent. Mais moi, je trouve que c'est des belles histoires.
Ben oui, justement, écoute, on parle de voyage, on parle de passion, on parle parfois de passion en commun, on parle de découverte. Évidemment, tu mets un petit peu de romance là-dedans et ça fait un brassage du tonnerre. Et toi, tu es allé en Chine aussi, tu es allé arpenter le marché.
Moi, je m'étais marié avant, donc je n'ai pas arrêté.
Ok, toi, tu as été sauf, on t'a épargné.
Tout à fait, ouais. Je me suis concentré sur mon travail. Mmh. Oui, j'ai attaqué le marché chinois. Donc, je suis parti, ça devait être autour des années 2005 à peu près, 2005-2006. Alors, au début, c'était, je ne m'étais pas mis d'objectif. C'était plus pour regarder un peu le marché via Hong Kong, puisqu'on avait la chance, via notre atteinte profession, de faire la fête du vin à Hong Kong. Donc, la fête du vin, c'est le même modèle que vous avez c'est à Québec, c'est ça?
Sais-tu, je pourrais même pas te le dire. C'est toi qui m'as appris qu'on avait la fête du vin au Québec. Bon, encore une fois, on révèle mon ignorance ici.
Donc, tu vas aller voir.
Je vais aller voir.
Donc, le premier modèle avait été, bien sûr, créé à Bordeaux. Ensuite, il a été dupliqué à Hong Kong, parce que Hong Kong est une ville jumelée avec Bordeaux, qui était très, très intéressée par ce concept. Donc, c'est tous les deux ans à Bordeaux, mais Hong Kong, eux, le faisaient tous les ans. Voilà. Et ensuite, ça a été dupliqué donc, dans ton pays. Tu vas te renseigner. Et ensuite, à Bruxelles également. Voilà, donc il y a quelques villes qui font la fête des vins de Bordeaux, comme ça. Et Hong Kong était intéressant. Je me suis dit, ça peut être une porte d'entrée pour le marché chinois, au moins dans un premier temps, de pouvoir voir quelle est la vision qu'ont les jeunes hongkongais, hongkongaises du vin de Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils aiment ça? Avoir une idée d'un peu de cette clientèle asiatique, ce qui les intéressait.
Quels sont leurs goûts?
Tout à fait, voilà.
Voilà.
Et donc, la surprise a été grande, parce que quand je suis arrivé, la première année, donc c'était la deuxième édition, ils étaient un peu curieux, ils ne connaissaient pas trop. Et déjà, la deuxième année, ça les intéressait beaucoup plus. Et la troisième année, ils étaient presque connaisseurs, quoi. Donc, il y a eu une
voie. Ça évolue vite.
Ouais, ça évolue très vite sur l'Asie. Et donc, il y avait des Français qui étaient sur Hong Kong qui m'ont dit qu'il y avait des écoles de vin qui s'ouvraient tous les mois sur Hong Kong. Et dès que c'était ouvert, c'était complet. Donc, les gens avaient une soif d'apprendre, de connaître les vins de... Bon, peut-être pas que de Bordeaux, mais enfin, au moins de Bordeaux, qui étaient importantes. Et puis après, on le voyait quand on discutait avec eux pendant la fête du vin. Ils savaient ce qu'ils voulaient, quoi.
Soif d'apprendre semble une expression délicatement choisie qui représente bien la réalité. Mais là, ça fait quelques années. Aujourd'hui, est-ce que le marché de la Chine est toujours aussi important pour Bordeaux et les régions autour, ou en tout cas pour le vin français?
Alors, malheureusement, on a subi quelques déboires qui ne sont pas de notre propre chef. Parce que nous, on a continué à produire des vins de qualité, à les envoyer. On se déplaçait sur le marché asiatique pour rencontrer nos clients, donc on a fait le boulot. Le problème a été plus politique, c'est-à-dire qu'on a d'autres pays concurrents, on peut les citer, il n'y a pas de souci, qui sont le Chili.
On est tous des amis, voilà. C'est aussi simple que ça.
J'ai rien contre eux, ils ont fait leur job. Et donc des pays concurrents qui sont le Chili et l'Australie, qui au niveau des gouvernements, avaient négocié des accords de libre-échange avec la Chine.
Voilà.
Donc on savait qu'au bout de 5 ans, ils allaient avoir zéro taxe, alors que nous, on allait continuer à avoir des taxes. Donc évidemment, il y a une distorsion de concurrence. Et donc bon, les Chinois, ils attendaient que ça, finalement, d'avoir des nouveaux produits encore moins chers. Mmh. Donc quand ils sont arrivés sur le marché, c'était un raz-de-marée. Et donc on a perdu des parts de marché assez importantes à ce moment-là. Mais le Bordeaux reste quand même dans le cœur des Chinois. Et on voit que chaque fois qu'on va à un salon ou même quand on discute avec nos agents ou des contacts qu'on peut avoir, il y a toujours une place pour nous.
Il y a toujours une place pour le Bordeaux ou pour les vins de Cadillac, Côte de Bordeaux.
Exactement. Quand je dis Bordeaux, c'est les appellations générales. Ouais. Mais la spécification Cadillac, pour l'instant, manque un petit peu de notoriété en Chine. Mais récemment,
il va falloir travailler là-dessus.
Exactement. récemment, j'ai rencontré des Chinois et...
Mon cellulaire est en train de s'imaginer des choses et me parle sans avoir été sollicité du tout. Voilà.
Donc, j'ai rencontré quelques distributeurs sur la Chine et il y a peut-être des choses à faire sur le Cadillac, sur des cuves un peu haut de gamme. Mm-hmm. Donc, on va regarder ça de près. Ouais.
Ben, ça me fait penser, et là, ça, c'est une grande question. La question à 100 000 $. A-t-on besoin, quand on n'est pas l'un des plus grands producteurs en France, d'exporter à l'international? Est-ce nécessaire pour avoir du succès?
Alors, le fait d'être... Quand tu dis grand producteur, tu parles en volume, en notoriété ou les deux?
Volume.
En volume.
Parce que moi, je regarde ça en part de marché, je regarde ça en volume. Je me dis, plus tu as du volume, plus tu peux vendre beaucoup à moindre prix pour tout le monde. Parce que tu peux faire des économies d'échelle. Puis peut-être que ce n'est pas la bonne façon de le voir, mais c'est comme ça que je le comprends.
Donc, ta question, la réponse découle de source. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un des plus gros producteurs d'AOC en France, puisqu'on a à peu près, alors ça fluctue évidemment d'une année sur l'autre, mais on est autour des 115 000 hectares.
En France ?
Non, sur Bordeaux.
Ah, pardon.
Juste sur Bordeaux.
D'accord.
Voilà. Donc, il est évident que sans l'international, ça serait compliqué de découler tout ce vin sur le marché français. Mm-hmm. Puisque le marché français, c'est un marché qui décroît au niveau de la consommation depuis à peu près la dernière guerre mondiale.
Ah voilà. Oui, à chaque année, on boit un petit peu moins de vin.
Tout à fait. On est passé sur des consommateurs qui étaient réguliers. Alors, pour certains, même un peu trop réguliers, hein, puisque ça, c'était de l'ordre de plus d'un litre par jour. Donc, mm-hmm. on était sur des consommations excessives à des consommations qui sont maintenant occasionnelles. Mais on le voit au niveau de la segmentation de l'offre. On était surtout sur des marchés de vins plus d'entrée de gamme à la sortie de la guerre, voire des vins de table, des vins, ce qu'on appelle le rouge qui tâche, hein, des vins vraiment d'entrée de gamme. Voilà.
Et c'est pas gentil ça comme expression.
Non, mais
alors il est comment le vin? Ah, ça tâche, ça tâche.
c'est assez péjoratif, mais c'est comme ça qu'on disait. Et je pense que le niveau des vins à ce moment-là était quand même loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Mm-hmm. Et on est passé maintenant sur des vins qui sont beaucoup plus qualitatifs, mais avec des consommations qui sont plus faibles.
Plus modérées, si on veut.
Et moi, je le vois dans les points de vente, quand on va faire de la promotion. Les gens qui veulent acheter du vin, ils achètent des vins qui sont beaucoup plus chers. Ils ne veulent pas boire beaucoup, mais ils veulent boire très bon. Voilà. Mmh. Donc moi je me suis orienté aussi dans ma gamme, je suis pas fou, je suis le marché, je me suis mis à faire des cuvées un peu plus valorisées, plus travaillées, je me donne beaucoup plus de mal, je choisis bien mes lots, je les élève dans des barriques haut de gamme, je les garde le temps nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient prêts à boire, mmh. et ça me permet de vendre des vins beaucoup plus valorisés, bon, qui me coûtent plus cher à produire certes, mais qui sont plus longs à produire aussi. Donc j'ai segmenté mon offre en deux types de produits. Je vais avoir une partie où c'est des vins à rotation rapide, notamment pour le rosé, qui est un marché qui est en pleine explosion sur Bordeaux, notamment sur la côte landaise, la côte de Girondine aussi. Mm-hmm. On a un afflux de touristes, donc l'été, on a une grosse consommation de rosé.
Les touristes aiment plus le rosé que le blanc, peut-être?
C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous dans la région l'été.
L'été,
on aime bien boire un rosé frais sur la terrasse, surtout quand il fait comme aujourd'hui près des 40 degrés.
Ouais.
C'est plus facile que de boire un rouge qui va être un peu tannique et puis qui ne sera jamais à bonne température parce qu'il fait vraiment trop chaud.
Ouais. Voilà. Ça tape un petit peu plus aussi. Voilà. En tout cas, on a l'impression que ça tape plus le rouge.
Voilà, donc on a vu qu'on avait un potentiel de vente de rosé qui se développe avec une grosse croissance. Notamment l'été, donc c'est intéressant, ça fait des vins en rotation rapide, on le ramasse en septembre, on le vend l'été d'après. Mm-hmm. Donc ça fait un retour sur investissement qui est intéressant. Ensuite on a un accroissement des ventes de blancs, donc les blancs c'est pas qu'à Bordeaux, c'est général sur toute la France, il y a une demande de blancs à l'international mais en France aussi qui est en train de progresser, donc c'est pareil, c'est des vins en rotation rapide. On les produit en septembre, on les vend dans l'été, voire toute l'année. Donc, c'est des vins qu'on garde juste l'année. Et ensuite, on a toujours une gamme avec des petits Bordeaux d'entrée de gamme qui sont entre 4 et 5 euros, assez ronds, soyeux, faciles à boire, qu'on peut boire jeune, notamment à base de Merlot. Où là, c'est pareil, on peut faire des vins à rotation rapide. Donc, si vous voulez, ça permet d'avoir quand même un retour sur investissement qui est intéressant puisqu'on a des coûts de production qui sont importants. Donc, il faut pouvoir avoir un retour rapide sur une partie de la production. Mmh. Et de l'autre côté, sur des cuvées un peu plus travaillées. Donc en blanc, j'ai la cuvée Alice. En rouge, j'ai deux cuvées qui sont la réserve que tu as goûté à midi et ainsi que la grande cuvée qui est une cuvée plus haut de gamme. Où là, on a des rotations plus lentes avec des produits un peu plus haut de gamme.
Alors, dans le fond, tu choisis certains produits en fonction de ce que tu sais que les gens veulent et en fonction de la qualité que tu cherches à offrir.
Alors, j'essaye de coller au maximum au marché, à la demande. Mm-hmm. Et ensuite, je privilégie certaines cuvées par rapport à d'autres selon les millésimes. Il est évident qu'une année où on aura un petit millésime, j'ai aucun intérêt à faire des cuvées haut de gamme. D'une part, parce que l'effet millésime fera que les gens ne seront pas intéressés par ce millésime-là.
Voilà.
Et d'autre part, au niveau technique, il y a des années, ça peut être très compliqué de faire une belle qualité alors qu'on n'a pas la matière qu'il faut au démarrage.
Est-ce que cette année de disette, d'incendie de partout à travers la France et dans d'autres pays d'Europe, c'est une de ces années dans lesquelles ce n'est pas intéressant de se lancer dans le millésime?
Alors, en ce qui concerne l'incendie, c'est plus pour les forêts de pins, donc ça ne nous touche pas. Mmh. D'autant plus que pour l'instant, on n'a aucune fumée qui vienne sur le vignoble. Donc, on n'a aucune incidence ni directe ni indirecte. Donc, pour nous, ce n'est pas un souci. En ce qui concerne la petitesse du millésime que tu supposes.
Que je suppose, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, moi, je serais plus dans les spectatives à aujourd'hui, puisqu'on a un vieux dicton qui dit « août fait le mou ». Donc actuellement, le mois d'août, on est juste au premier tiers. Donc tout peut arriver et on a vu des fois des vendanges magnifiques juste avec un changement au mois de septembre ou sur fin août. Donc tant que le raisin n'est pas vendangé, tout peut arriver. Donc je te demanderai soit de me rappeler plus tard.
On va en reparler, mais je comprends. Reparler plus tard. C'est pas fini tant que c'est pas fini.
Non, surtout que le fait qu'on ait toute cette chaleur... on a quand même je regardais un peu ce matin, je suis allé dans les vignes, je vois sur les merlots, on a quand même des véraisons qui ont été très régulières, toutes les baies sont devenues violettes, il n'y a plus de baies vertes, donc on a des choses qui se sont bien passées. Après il ne manque pas forcément grand chose, hein, un petit orage, un peu de pluie et ça inversera la machine et on peut faire quelque chose de très bien. Donc j'ai eu tellement de... Tu sais, je me suis installé en 2001, donc ça fait déjà une vingtaine de vinifications que j'ai fait. Et aucune année est identique. Et il y a eu tellement de renversements de situation qui font que, à la limite, tant que ce n'est pas rentré, je ne suis pas inquiet. Quoi. Mm-hmm. Ouais, tout peut arriver encore.
Malgré tout, on est à l'heure où est-ce que tout le monde parle des changements climatiques. Et je me demande si c'est quelque chose qui, comme enjeu, t'inquiète en tant que viticulteur.
Alors, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est quelque chose qui est inquiétant parce qu'il va y avoir des virages à prendre, il va falloir adapter son entreprise.
Des décisions difficiles, peut-être.
Tout à fait. Et actuellement, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous, mais on ne sait pas laquelle prendre. Est-ce qu'on change les cépages? Est-ce qu'on garde les mêmes cépages, mais on change le mode de conduite de la vigne en le palissant moins, en faisant retomber, en mettant moins de palissage? On l'adapte un peu comme sont les vignes dans le sud. Est-ce qu'on fait les deux, changer le cépage et changer le mode de conduite? Est-ce qu'on aura l'irrigation ou pas? Voilà, donc il y a des questions que l'on se pose. On aimerait que l'interprofession soit un peu plus active sur ces sujets. Bon, pour l'instant, on n'a pas de retour. Je ne sais pas. Pour l'instant, je réfléchis encore. Mais je sais qu'il va y avoir des décisions à prendre. Et bon, on peut peut-être les prendre sur des petites parcelles, voire faire des tests. Mais on aurait quelque chose de collectif, un projet collectif, ça serait peut-être plus facile.
Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'expérimenter, mais en même temps... Expérimenter avec quoi? Parce que le problème, c'est pas nécessairement les changements climatiques, c'est l'incertitude. On ne sait pas exactement vers quoi est-ce qu'on s'en va, donc on ne sait pas exactement c'est quoi la solution.
On manque de recul, c'est-à-dire que ce que je regrette un peu peut-être, c'est qu'on n'ait pas fait des tests il y a une quinzaine d'années en implantant à Bordeaux différents cépages, en regardant un peu de près ce qui se passe. Et ensuite faire des choix pour globaux pour tout le monde ou éventuellement pour une partie ou qu'on puisse mais là actuellement on n'a pas de recul donc il va falloir que soit chacun fasse ses tests de son côté ou alors attendre vraiment longtemps que le voisin ait fait le test donc des fois c'est pas bien d'être trop avant-gardiste mais faut pas être trop à la traîne non plus quoi.
Ouais, encore une fois c'est une question d'équilibre.
Voilà, mais après, moi, j'ai toujours eu une politique, c'est pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, essayer certaines choses, je pense que ça peut être intéressant quand même.
Ben justement, là, en ce moment, pendant qu'on enregistre notre petit podcast ici, on est dans tes installations. Oui. Beaucoup, beaucoup de trucs neufs qui datent de 2014. Tu as modernisé beaucoup dans la dernière décennie.
Oui, alors malheureusement, quand j'ai démarré, on a eu une situation qui était un petit peu difficile avec un ralentissement économique. D'ailleurs, il y a eu même en 2008 la crise des subprimes, que vous avez dû connaître aussi de l'autre côté de l'Atlantique.
Ça n'a pas épargné grand monde.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, un vignoble comme Bordeaux, qui commercialisait à peu près 5,5 millions d'hectolitres à l'ensemble du vignoble, hein, sur toutes les appellations confondues, 5 millions d'hectolitres par an, s'est retrouvé d'une année sur l'autre à perdre 1 million d'hectolitres de commercialisation. Donc ça fait que pendant pratiquement les 10 premières années de mon installation, mis à part les achats que j'ai faits quand je me suis installé en tant que jeune viticulteur, on croit dans beaucoup de choses, donc on fonce. Bon, je regrette pas, j'avais pu les financer, mais j'avais pas pu investir après par la suite. Donc pendant 10 premières années, je n'ai pas investi, je n'ai pas pu mettre à niveau mes installations comme j'aurais voulu. Donc quand j'ai commencé après à prendre des marchés sur la Chine et développer un peu les ventes localement également, quand ça a mieux marché à partir des années 2010, hein, de 2010 à 2021, mais j'ai dit bon, mais maintenant je commence à être en âge de faire les investissements que je veux, si je veux avoir le temps de les financer d'ici ma retraite. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais faire ce qui me manque. Donc, j'ai fait un chai supplémentaire. J'ai acheté la batterie de cuve que tu vois à côté pour pouvoir avoir plus de place. Et ensuite, comme je voulais développer les ventes en bouteilles, j'avais besoin de place pour stocker mes boxes de bouteilles et développer également les barriques. Donc, ça m'a permis dans ce chai de pouvoir tout faire. Et ensuite, au niveau du pressurage, on avait un pressoir qui était quand même fatigué, avec une technologie qui était un peu plus ancienne. Donc, ça m'a permis de passer au pressoir automatique, qui permet d'avoir une qualité pour les blancs, les rosés, qui est superbe, mais aussi pour les vins de presse en rouge, qui permet d'avoir beaucoup de finesse. Quoi.
Donc, vous allez dans le contrôle de la qualité, là, vraiment.
Voilà, améliorer. Ben, les objectifs, c'était toujours pareil, c'est améliorer la qualité, bien sûr. Ça, c'est toujours l'objectif numéro un. Et ensuite, avoir plus de facilité pour travailler. Et ce qu'on a fait aussi, mais que tu n'as pas vu directement, j'ai fait monter aussi une régulation de température sur l'ensemble de la cuverie en inox, qui me permet, donc, pendant les vinifications, de plus me soucier de la température. J'ai juste à la programmer et elle est constante. Et surtout après, tu vois, comme des chaleurs comme aujourd'hui, ça me permet de garder mes vins à 19 degrés, quoi qu'il arrive à l'extérieur.
Ça permet aussi d'avoir du bon temps à l'intérieur, à enregistrer un balado, à ne pas complètement suer comme une rivière d'or.
Voilà, ça c'est offert par la maison.
Je pense que c'était ton meilleur investissement à vie, clairement. Subventionner les Québécois qui visitent avec 2-3 micros. Mais tu m'as inquiété un petit peu plus tôt, sais-tu, quand tu me parlais, tu m'as inquiété. C'est inquiétant, puis en même temps, ça ne l'est pas, mais je peux comprendre pourquoi ça le serait. C'est la consommation qui diminue pour l'alcool ou en tout cas pour le vin en France. Ça me rappelait les quantités historiques d'alcool pur, disons, qu'on consommait au début du 20e siècle, qui sont à des années-lumière de ce qu'on a aujourd'hui. Je regardais par exemple la Belgique. La Belgique, là, on peut parler de entre 200 à 300 litres d'alcool, litres de bière par année. Pas alcool pur, là, parce que l'alcool pur, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'était en tête de pipe. Là. C'était vraiment au sommet du palmarès. C'était énormément de bière. Puis en à peu près 30 ans, la consommation d'alcool a diminué d'à peu près un tiers. C'est énorme. Cette bière-là, elle est allée quelque part. Les brasseurs belges se sont dit, on a moins d'achats locaux, on va aller à l'international. Et ça a fait les grands groupes belges qu'on connaît aujourd'hui, les grandes brasseries belges qu'on connaît aujourd'hui. Je me demande si cette situation-là se transpose à la situation du vin dans lequel, puisqu'il y a moins de consommation de vin en général, on n'est pas forcé en quelque sorte de soit produire moins ou de surenchérir sur l'exportation.
Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est un petit peu la même chose qu'il y a eu sur le vin.
Ben, j'espère que c'est intéressant.
Aux sorties de la guerre, si je me souviens bien, on avait des volumes par habitant qui étaient énormes, hein, de l'ordre d'une quarantaine de litres de vin par an, par personne. Mm-hmm. Maintenant, on est très loin de ces chiffres. Et en ce qui concerne l'internationalisation des vins de Bordeaux, elle a toujours été. Un chiffre qui est rassurant dans ce que tu me dis, c'est que au niveau français, certes, la consommation baisse, mais au niveau international, comme on a de nouvelles nations qui se mettent à boire du vin ou qui augmentent un peu leur consommation, on a quand même une stabilité, voire un développement de la consommation de vin. Notamment un pays comme la Chine qui commence à boire un petit peu de vin. Alors ouais. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. C'est pas dans toutes les villes, c'est surtout dans des grosses villes, voire qui sont un peu internationalisées. Mais depuis des grosses villes en Chine, il y en a beaucoup. Mais tous ces petits ruisseaux, ça fait quand même des grandes rivières.
Ouais.
Et on a aussi un marché qui est en croissance chez un de tes voisins, puisque je crois que les États-Unis ont une croissance de consommation de vin. Mm-hmm. Alors peut-être si on dépend du Coca-Cola, mais enfin, j'y crois pas trop.
Je préfère personnellement le vin au Coca-Cola, mais c'est parce que je suis pas un grand fan de Coca.
Voilà, moi non plus. Et donc il y a des possibilités sur l'export. Alors par contre, peut-être la faiblesse qu'on a à Bordeaux, mais enfin il n'y a pas que ça. C'est que Bordeaux est constitué, si tu veux, de 6000 viticulteurs. 6000 propriétés, alors peut-être pas toutes familiales comme les miennes, mais beaucoup, une grosse majorité. Mm-hmm. Et ensuite, 300 négociants. Alors pour les viticulteurs comme moi, partir à l'international, c'est pas donné à tout le monde. Non pas que je veux me mettre en avant, mais ça demande déjà au moins la maîtrise d'une langue étrangère. Mm-hmm. Ensuite, d'avoir quelques aptitudes à la commercialisation, au commerce, à faire du business. Et puis après, avoir envie d'aller un peu dans l'inconnu, puisque quand on part, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait.
Ouais.
Donc même s'il y a des structures qui peuvent un peu encadrer, comme j'ai fait à la Chambre de commerce, mais il faut quand même oser. Et donc certains, moi j'ai des collègues qui ont mon âge, qui m'ont dit clairement, ça ne m'intéresserait pas du tout de faire ce que tu fais, ou t'es courageux ou t'es fou.
Il faut vouloir partir à l'aventure, voilà. Et il s'agit de prendre des risques, parce que c'est un risque. Tu peux investir beaucoup. Et a priori, c'est pas du tout évident que tu vas vraiment rentrer dans ton investissement.
Alors, il faut savoir qu'au début, c'est vrai que chaque voyage, ça avait un coût, peut-être on peut en parler, hein, c'est pas secret, qui était de l'ordre de 4 000 euros, 5 000 euros peut-être par voyage, quand il fallait payer l'hôtel, le transport, la prestation de la chambre de commerce, enfin tout ça. Et tant qu'on n'a pas de client en face, ben on s'est dit, bah ouais, super, je suis parti là-bas, mais j'ai rien vendu. Alors, des fois, on vend des petits lots, des petits trucs. Bon, on s'est dit, c'est pas mal. Mais le jour où on trouve le client qui va prendre des containers, qui prendra du volume, on se dit, mais les investissements que j'ai faits, mais ils sont super bien payés. Mais ça y est, j'ai tout rentabilisé très vite.
Voilà. Et alors puis, là, on est en affaires. Et puis, d'une année à l'autre, tout d'un coup, tout ça peut disparaître aux aléas de l'évolution du marché international.
Alors, tu fais bien de dire ça parce que j'ai eu cette réflexion-là très tôt. Non, mais tu as raison. Je me suis rendu compte quand je suis parti en Chine comme ça, parce que moi, c'était un peu par dépit. Je n'arrivais pas à vendre en France. Il y avait tellement de monde sur le marché. Le marché était saturé de gens qui voulaient vendre du vin. Donc, j'ai dit, bon, tant pis, je vais en Chine, on verra bien, puisque c'est un marché en croissance. Je vais essayer de prendre ma part du gâteau. Et quand je suis parti là-bas, j'ai rencontré beaucoup de viticulteurs comme moi, puisqu'on était un groupe. Hein, et je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient avec moi, ils avaient des marchés solides déjà dans le pays. Ils vendaient chez des réseaux de cavistes, chez des réseaux de particuliers, mais ils vendaient. Mm-hmm. Ils vendaient pas mal. Je me suis dit quand même, alors excusez-moi, je vais avoir une expression peut-être un peu triviale, mais quand même, je suis un gros branleur. Je m'en vais... C'est comme ça qu'on dit, je veux pas que mes propos soient déformés, c'est comme ça qu'on dit chez nous.
D'accord.
Je suis un gros branleur de partir à la fleur au fusil comme ça en Chine, essayer de trouver des clients, alors que j'ai même pas à la maison quelque chose de solide. Donc je me suis dit, tu peux pas rester comme ça. Alors j'avais peur au niveau politique, puisqu'à l'époque on a eu Monsieur Sarkozy, après on avait Monsieur Hollande. Et la France a été toujours à l'avant-garde au niveau des droits de l'homme, a toujours essayé d'un petit peu de, voilà. de par rapport à la Chine, par rapport au Tibet, enfin par rapport à beaucoup de choses.
Oui, vous avez un truc là appelé liberté, égalité, et puis toutes ces affaires là.
Et fraternité aussi.
C'est voilà. Ça, la fraternité.
Voilà. Et donc de temps en temps, il y avait des politiques qui voulaient mettre la Chine dans le droit chemin au niveau des droits de l'homme. Mm-hmm. Mais malheureusement, on n'était peut-être pas assez armés au niveau de la puissance du pays. Et donc, j'avais qu'une peur, c'est justement qu'il y ait une embrouille à ce niveau-là, au niveau politique, et que du jour au lendemain, on nous dise, écoutez, messieurs, votre vin, vous allez vous le garder, et puis vous occuperez de vos affaires. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est bien de développer sur la Chine, mais il faut développer aussi sur la France. Donc, de retour à la maison, j'ai réfléchi ce que je pouvais faire pour rapidement trouver des clients, avoir du volume, essayer de vendre un peu de toute la gamme pour que ça tourne pas mal. Donc, je me suis tourné vers la grande distribution locale. Mm-hmm. Je suis allé voir donc, des magasins sur Bordeaux, pas trop loin pour pouvoir les gérer. Et je me suis entendu avec quelques chefs de rayon, très sympa. Et je me suis appliqué donc, à développer les ventes dans ces magasins en allant le week-end, presque tous les week-ends, animer... dans ces magasins à tour de rôle. Et du coup, j'ai créé un petit réseau qui m'a bien servi, notamment pendant le Covid, puisque j'ai pu continuer à vendre alors que tout l'export a été neutralisé. Mm-hmm.
Et il faut survivre, il faut continuer à produire.
Voilà, donc j'ai essayé de justement pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et jusqu'à présent, ça m'a réussi. Bon, cette année, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a quand même un ralentissement aussi en France. La Chine n'a toujours pas redémarré. Mais bon. Je peux attendre des jours meilleurs. J'ai une structure qui est beaucoup plus solide que quand j'ai démarré il y a 20 ans.
Il y a des choses qu'on a apprises là, durant cette discussion. Et c'est important d'anticiper. Si on veut se faire connaître, il faut prendre l'initiative. Il faut faire preuve de mesure. C'est bon d'avoir un peu le sens du risque et de l'aventure et d'aller au-delà des frontières et d'aller voir des clients potentiels. Et en même temps, c'est bon aussi de vendre localement. C'est bon de se moderniser, de se mettre au goût du jour et puis aussi d'anticiper les évolutions futures. Puis d'aller chercher, évidemment, la qualité. La qualité, c'est déjà un bon point de départ.
Je crois que tu as tout résumé, en fait. Hein.
Tout a été dit.
J'aurais pas dû parler.
Il ne pourrait pas y avoir d'autres podcasts sur le sujet.
J'aurais pas dû parler si longtemps. Avec cette phrase, ça suffisait à te résumer.
Et le pire, c'est que probablement, on pourrait dire ça en un mot. Qualité.
Tout à fait. Mais après, la qualité, si tu veux, je m'y oblige, en fait.
Tu as passé dangereusement après de me vous voyez. Là.
Du fait que je vends comme ça au contact des clients, même en magasin, hein, je suis présent dans les magasins, je vois mes clients, je les revois. Je fais en sorte qu'ils puissent me contacter. Donc, je suis présent sur Instagram, sur Facebook. Mm-hmm. Souvent, il y a mon email au dos des bouteilles. Donc, ils peuvent me contacter, ils peuvent me joindre, c'est très facile avec les messageries. Et donc, je m'oblige à leur mettre des bons produits parce que moi, j'adore qu'ils me fassent des éloges.
Ah, ben c'est sûr que quand on veut pêcher pour des compliments, on se prédispose à en recevoir.
Oui. Donc, non, mais après, la qualité aussi, c'est un... Oui, c'est un devoir de tous les jours. Et puis, je m'aperçois qu'en vieillissant, puisqu'on y passe un petit peu, hein, tous les ans un peu plus.
Tous les ans, on se rapproche.
Voilà. Je m'aperçois qu'en vieillissant, je sais exactement ce que je veux, mm-hmm. comme type de produit, comme profil produit. Et je suis plus têtu. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas ce que je veux, mais ça ne me convient pas et on travaille jusqu'à ce qu'on y arrive. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Alors, je parle surtout au niveau des assemblages. Hein. Donc, ça, c'est avec mon œnologue. L'assemblage, donc, c'est quelque chose qui est propre à Bordeaux. Bon, ça peut se faire dans d'autres appellations aussi, mais à Bordeaux, c'est
standard, disons que c'est assez uniforme.
Ouais,
là.
C'est une institution, c'est-à-dire qu'on fait des vins d'assemblage, c'est-à-dire qu'on prend des vins de plusieurs cépages et on s'est aperçu que quand on les goûte séparément et quand on les goûte ensemble dans certaines proportions, qui sont le choix du viticulteur et de l'œnologue, ben on a plus on va avoir de variété de cépages, plus on aura d'assemblages de cuves différentes, plus on aura de complexité, plus on aura quelque chose qui sera riche mmh. et intéressant. Donc, quand je fais mes assemblages avec mon œnologue, je suis de plus en plus exigeant.
On dirait qu'avec l'âge, tu vas chercher le courage ou en tout cas la témérité de tes convictions. Il y a une qualité qui se manifeste dans ta tête et elle se clarifie avec le temps.
Oui, tout à fait. Bon, après, les convictions, ça va être... Surtout d'essayer de faire bien, une belle qualité, mmh. et puis avoir une satisfaction client, un bon retour client. Quoi.
Je pense que c'est un bon point de chute pour notre délicieux segment, abreuvé d'ailleurs du Château Mont-Gaillard. J'ai pris plus qu'un verre, disons. Ce que moi j'en retire d'abord et avant tout, c'est que c'est d'abord le plaisir de faire les choses bien, et d'aller créer une expérience, surtout une expérience gustative, à l'heure où est-ce que, ben, en réalité, on s'éloigne un petit peu de la consommation juste pour consommer. Et qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens? Le visage humain, le contact, la rencontre avec l'autre. Ce qui peut, en fait, être offert par un bon verre de vin, un bon verre de bière, mais surtout, c'est le contact humain à travers ça.
Souvent, quand je suis dans les magasins, avant de mon vin, les gens sont contents, ils me disent, mais... ça fait vraiment plaisir de voir le viticulteur. Mm-hmm. Ou des fois, de façon un peu plus cool, on va me dire « Oh, mais je vous le prends parce que vous êtes sympa. »
Ah, je te le prends parce que t'as l'air chill.
Vous êtes sympa, je vous le prends, puis en plus, vous faites l'effort de venir. Donc.
Ben oui.
Voilà. Et après, il me renvoie, il me dit « Mais c'était vraiment bon, là. Vous... je vous en reprends. »
Mais c'est fou ce qu'un contact humain peut changer. Avec ou sans bière, là, hein, on n'est pas là pour faire juste l'apologie de l'alcool. Pour moi, l'alcool, c'est le moment de départ pour examiner l'humain. Puis on n'a pas besoin d'alcool pour ça. On a besoin de bonne compagnie, puis juste d'un peu de temps.
Mais après, dans le vin, bon, effectivement, il y a l'alcool. Mais tu vois, il y a d'autres paramètres qui sont intéressants au cours de la dégustation. Puisque l'alcool, ce sera juste la finalité. C'est ce qui va amener peut-être la puissance, mm-hmm. La sucrosité sur la fin. Mais... on va avoir les tanins, la complexité du tanin, on va avoir le nez aussi. Donc, moi, je vois quand on déguste un vin avec des copains qui sont des très bons amateurs, on en parle. On parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on trouve. Des fois, on est même un peu joueur, on va se cacher les bouteilles en essayant de trouver ce que c'est.
Oui, oui, oui.
Il y a des choses un peu mentes. Et puis après, on compare ou on essaie de mémoriser par rapport à ce qu'on a déjà goûté. Comment ça se situe, ce vin-là. Enfin, y a plein de possibilités qu'on n'aurait pas avec une autre boisson. Mm-hmm. Parce qu'on mémorise certaines choses ou certaines expériences qu'on a eues. Et on se souvient, hein, même longtemps, moi je me souviens de certaines bouteilles que j'ai bues avec des copains. Et je peux encore en parler parce que ben, non seulement on a passé un bon moment, mais on a eu une super expérience. Quoi.
Voilà. Pour le temps d'un verre de bière ou pour le temps d'un verre de vin, Le temps d'une bière est un balado qui s'intéresse à l'histoire des gens, à l'histoire des expériences, à l'histoire du local, du municipal ou en tout cas de la place d'ici, peu importe où est-ce que ici c'est. Et dans tous les cas, c'est un balado qui s'intéresse à vous, à votre histoire. Écoute, François, Un grand merci pour avoir été avec nous pour le temps d'un bon verre de vin manufacturé avec amour par chez vous.
Merci Pierre. Et ben, peut-être on se reverra dans ton pays, ça me ferait bien plaisir.
Ben oui, viens faire un petit tour au Québec. Là, on va te dire bonjour, on va déguster ton vin.
Avec plaisir.
Et à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce qu'on dit, si vous aimez notre contenu, si vous avez des idées, écrivez-nous, suggérez-nous des trucs. Et vous savez qu'on est réactif et qu'on aime qu'on nous parle. Donc écrivez-nous, abonnez-vous et surtout, continuez à nous écouter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Cheers!